Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey.
Itinérance, une déambulation proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Pour parler avec les gens.
Bonjour, bonjour à tous. Alors, parler avec les gens, ces gens, ces trois dames qui sont là au studio, que vous connaissez certainement, que je connais, et qui ont déjà eu leur émission sans elles, au fil des pages de Christian Delors, car Jean-Louis Meunier avait amené leur livre. Mais c'est encore mieux que vous parliez vous-même de votre livre. C'est donc Camille Pinchina, bonjour.
Bonjour.
Je mets dans l'ordre autour de la table, hein, y a pas de... Francine Cabanne, bonjour.
Bonjour.
Et Daniel Jean,
bonjour.
Bonjour. Pour parler de leur livre, Nîmes, la grande aventure du commerce. Donc, je vous invite à une déambulation et vous allez nous expliquer, vous prenez la parole sans vous disputer, mesdames. Hein,
on va essayer.
On va essayer de comment a germé cette idée du livre. À quoi vous vous limitez, si j'ai bien compris, j'ai eu le livre, c'est plus l'écusson, et qu'au-delà de lieux, au-delà de commerce, il y a des êtres humains, il y a des commerçants, il y a du texte, mais il y a aussi les aquarelles, puisque Camille, vous êtes aquarelliste, et on commence par vous, tiens. Pourquoi voilà, les aquarelles?
Mes déambulations en ville. Voilà. Donc, simplement dire que nous nous connaissions depuis longtemps et que nous avions déjà travaillé ensemble sur un autre livre, Nîmes illustrée secrète. Et mes déambulations précédaient plutôt les textes à ce moment-là. Mmh. Je me promenais et mon regard sur le nez en l'air, voilà, précédait les textes, sauf pour la première partie, l'empreinte antique, qui forcément, pas besoin de mon regard. Là. Pour celui-là, les textes de Francine et de Daniel m'ont guidée. Et je partais sur le terrain, guidée par voilà, les choix que nous avons faits ensemble, mais j'attendais quand même d'avoir le... Les textes, les contenus.
Et c'était différent, vous sentiez plus libre?
C'est différent. Simplement, tout n'est pas présent. J'ai aussi dessiné dans ce livre d'après des gravures anciennes ou des photos anciennes. Ça, c'est différent.
Ah oui, bien sûr.
C'est un peu différent. Je préfère aller sur le terrain. C'est plus vivant. Dessiner dans les magasins.
Vous avez votre petit carnet.
J'ai mon carnet. J'ai mon petit carnet. Je dessine sur place. Je mets en place, mais j'aquarelle après chez moi tranquillement pour ne pas non plus encombrer le magasin avec. L'eau, etc.
Alors, vous avez dû en faire énormément. Il y a une centaine de commerces. Je n'ai pas compté le nombre d'aquarelles.
À peu près 150. Si, 150. Si, je les ai comptées.
Ah,
quand même.
Vous n'avez pas compté les
parce qu'il
nombres
peut y
de
avoir
commerces.
Des tout petits dessins aussi qui sont groupés de façon différente sur les pages, qui sont agrandis ou diminués en fonction de la mise en page.
Bien sûr. Alors, bon, là, on n'a pas dit que c'était aux éditions Alcide, et c'est important. C'est toujours des très beaux livres, du beau papier. C'est un objet qu'on a envie de consulter, tourner les pages, ou ne regarder que les images, ou lire les textes, ou faire les deux. Et donc, Camille, vous avez répondu donc à la liste de Daniel et Francine. Alors, à vous maintenant. L'idée, elle est venue comment ?
Elle est venue tout simplement de manière, je dirais, très amicale, au cours d'un repas, pour parler de bonnes choses. Et il se trouve qu'au cours de ce repas chez notre éditeur, dont nous avons dégusté quelques spécialités locales. Et on s'est amusé, si vous voulez, autour de ces spécialités qui avaient chacune leur histoire. Et notre éditeur nous a demandé d'écrire quelque chose, peut-être, autour de ces commerces nîmois. Et il y avait un peu de tristesse aussi dans ce repas, parce que certains de ces commerces qui avaient marqué l'histoire de la ville venaient de fermer. Donc ça a été le point de départ.
Oui, je vous ai demandé plus de 2 ans pour vraiment aller de l'idée à la publication. C'est vrai que des commerces ont fermé. Bon, on pense à la cité. Moi, à chaque fois que je passe devant, je me dis quel dommage que ce magasin soit fermé. Vassereau aussi a fermé.
Mais oui.
Des grands noms, alors que les Nîmois connaissent, nous, enfin moi je suis Nîmoise récente, hein, une quinzaine d'années. Toutes les trois, vous êtes Nîmoise de souche, pas vraiment
Oui, non. Elles sont devenues très Nîmoises.
Très Nîmoises.
Depuis 40-45 ans,
depuis plus de 50 ans.
Donc c'est aussi votre histoire que vous racontez, c'est aussi un peu vos souvenirs.
Il y a un peu de ça, c'est vrai, pour certains passages. Mais il y a aussi donc, l'histoire de la ville, en réalité, derrière. Hein.
Ben oui, vous êtes géographe, pour ne pas se tromper. Mais histoire et géographie, on les étudie ensemble, donc ça ne peut pas se passer l'un de l'autre. Et même dans vos aquarelles, Camille, il y a des plans.
Ah, c'est pas... quelques plans pour se situer un petit peu.
Oui, je pense que c'est important tout de même d'aider. Oui. Alors, je suppose que, comme d'habitude, le premier chapitre est le plus long à rédiger. Vous avez une liste? Vous les avez classés par thème? Vous vouliez être exhaustive, pas exhaustive?
Bien évidemment, on savait dès le départ qu'on ne pourrait pas être exhaustif et qu'il allait falloir faire des choix qui ont été parfois douloureux parce qu'il y a dans ce livre des commerces assez importants à Nîmes avec des personnalités touchantes et qui ne figurent pas parce qu'on n'a pas pu mettre tout le monde et puis que notre éditeur tenait à ce qu'on mette l'accent vraiment sur ce qui paraissait emblématique de l'histoire de la ville. Parce que après avoir fait la liste des commerces dont nous avions envie de parler, nous sommes rendus compte que ces commerces, finalement, quelque part, en filigrane, racontaient la ville. Et qu'on pouvait passer de cette histoire individuelle ou de commerce particulier à la grande histoire du commerce à Nîmes au fil des siècles, au fil du temps. Donc, il nous a paru... de ce fait logique de rentrer par les temps les plus anciens, c'est-à-dire l'époque où Nîmes ne commerçait que les produits de son territoire, qui était beaucoup plus vaste qu'aujourd'hui. Hein. Le territoire de Nîmes, à l'époque des vols, qui était aussi grand, même plus grand que le département du Gard. Aujourd'hui, il y avait 24 oppidas qui étaient sous sa domination. Et Nîmes a très tôt fait beaucoup de commerce avec les Grecs de Marseille et faisait des échanges de tous ces produits qu'elle trouvait sur son territoire. Donc, tout ce commerce du bois des garrigues, des plantes de la garrigue, de la laine des moutons des garrigues, d'emblée a nourri ces échanges commerciaux. Et puis également ceux de la plaine, puisque Nîmes a la chance d'être à l'articulation de deux mondes, le monde de la montagne et le monde de la plaine. Nîmes a pu commercer très tôt aussi des semences, des graines, des produits qui étaient les légumes et les fruits qui poussaient dans la plaine.
Oui, d'ailleurs, c'est le titre du premier chapitre, « Les richesses et les ressources du territoire ».
Tout à fait.
Alors, on ne va pas pouvoir faire toute l'histoire, mais je pense aussi que vous avez donné priorité après au textile, parce que Nîmes, c'est le textile.
Oui. Alors,
pas tout de suite.
Peut-être pas tout de suite. Je crois qu'après, on a mis assez vite aussi les antiquités parce que ça fait partie du commerce nîmois et c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Nîmes avait la chance d'avoir sur son territoire des ressources extraordinaires en termes d'antiquités romaines. Et très tôt, ça a donné naissance à un commerce. Aujourd'hui, bien évidemment, on sait que ces objets-là vont dans les musées et sont propriété collective, propriété d'État et de tous les citoyens. Mais pendant des siècles et des siècles, eh bien, les collectionneurs se sont arrachés ces richesses et se les sont échangées. Donc, Nîmes a été une plaque tournante du commerce des antiquités à une certaine époque, particulièrement au XVIIIe siècle, quand on a exhumé des jardins de La Fontaine toutes les richesses du sanctuaire de culte impérial qui datait d'Auguste.
Oui, je vois par exemple, page 37, le musée Perrault, P-E-2-R-O-T, je ne sais pas du tout qui c'est.
Oula, c'est toute une histoire, mais ce serait trop long à raconter. Mais ce musée Perrault, ce Perrault était un antiquaire passionné d'antiquité, un personnage un peu particulier, qui avait monté un musée privé et qui se trouvait face à la Maison Carrée. Et en fait, on l'a un peu accusé d'avoir confondu ses collections personnelles et les collections de la ville. Mais bon, voilà. Mais ça a été un des premiers musées, enfin après celui de Jean-François Séguier, puisque Jean-François Séguier a accumulé beaucoup de richesses.
Alors c'est vrai, on parle d'histoire, on parle de lieux, on parle de commerce, on parle aussi d'hommes. On vient parler de Perrault. Et dans le premier chapitre, je vois des noms comme Ernest Pichon, je vois la famille Michel. Bon, on voit vraiment des noms qui se sont perpétués. Je crois, Camille, que vous aimez beaucoup les jardins.
Alors, ça, c'était simplement un souvenir de mes dessins, parce que j'avais été dessinée dans les jardins familiaux et que ça avait été une belle rencontre. Voilà. C'était une belle rencontre avec deux jardiniers que j'ai dessiné et dont j'ai dessiné le jardin et avec qui j'ai eu des beaux échanges.
Donc vous êtes arrivées toutes les trois à mettre aussi tout de même votre travail d'érudite, de chercheuse, mais aussi vos goûts personnels.
Oui,
c'est aussi votre témoignage, votre vision. Oui.
Par exemple, sur le textile, c'était tellement vaste l'histoire du commerce du textile à Nîmes qu'il a fallu faire des choix et qu'on les a fait aussi en fonction un petit peu de peut-être de nos souvenirs, par exemple les frères Vendôme, hein, les frères Kupfer qui avaient tant de magasins dans la ville et que nous avons connus dans les années 70-80, ou bien on a voulu aussi mettre des jeunes pousses qui aujourd'hui reprennent le flambeau du textile nîmois. Alors, il y a bien sûr les grands noms, Cacharel, Solignac, Rodet, mais il y en a d'autres aussi. Hein,
ouais. Bon, voilà. Et puis, comme vous dites, il y a les jeunes qui reprennent le flambeau. Vous insistiez, Daniel, au début, comme quoi oui, c'est une histoire d'hommes et de femmes.
Hein. C'est ça, ça a été une très belle rencontre pour nous, justement, de voir combien ces jeunes ont, si vous voulez, croient en ce, en ce qu'ils font. La plupart, ce sont des jeunes gens qui ont, si vous voulez, une formation bon, plus ou moins historique bon, et qui avaient besoin de retrouver leurs racines. Et ces racines-là, ils les portent en eux et ils ont envie de faire quelque chose. Oui. Voilà, de faire quelque chose pour la ville. Alors, le meilleur exemple, bien sûr, c'est Guillaume Sajot avec sa toile de Nîmes.
Bah oui, les ateliers de Nîmes.
Qui a eu beaucoup de difficultés au départ parce que, bon, il s'est heurté, bien sûr, à de gros problèmes. Surtout qu'il n'avait pas, il n'avait pas été préparé à ce métier-là.
Oui, on a visité son atelier.
Voilà, la jeune Jeanne, la jeune Charlotte qui s'est installée à côté de chez vous et qui crée ses propres donc vêtements, ça aussi, ça a été pour nous un moment très fort.
Oui, c'est quand on écrit un livre ou quand on dessine dans un livre, il faut qu'on y trouve du plaisir. C'est déjà tellement de travail que si en plus vous n'aviez pas de plaisir, et le livre vous plaît, je veux dire, une fois qu'on a l'objet en main, c'est votre bébé.
C'est notre bébé, mais il faut s'en détacher.
Oui, en tout cas,
pour les dessins, moi, je sens qu'il faut se détacher.
Moi, j'ai été très agréablement surprise, j'avoue, quand j'ai vu le livre. Parce que quand on termine un livre, on est dans... quelque part dans la frustration de tout ce qu'on n'a pas pu mettre, de tout ce qu'on n'a pas pu relire, de tout ce qu'on n'a pas pu améliorer en termes de rédaction. Et finalement, quand je l'ai ouvert, je l'ai trouvé lumineux. Et ça vient de la lumière des aquarelles. Il y a une très jolie lumière
dans le livre. Vraiment voilà. De prendre du temps, on n'est pas accablé par...
Donc, il me plaît, notre bébé.
Nous aussi. Il est certain qu'il y a beaucoup de nous, quand même, dans ce livre. Hein. Bon, il y a beaucoup... Je crois qu'il y a beaucoup de sensations très forte, qui remonte pour certaines à l'enfance. Mais ce qu'on ne voulait pas aussi, c'est qu'il y ait un côté nostalgique. Parce que justement, le commerce, c'est pas le
passé. Il faut que ça vive.
Ouais,
voilà.
Et c'était cette volonté-là que nous avions de montrer combien cette ville a des ressources importantes et qui doivent lui permettre effectivement de continuer, de retrouver un dynamisme qu'elle a connu autrefois.
Alors, il y a deux chapitres là qui vont faire venir beaucoup de monde, parce qu'entre deux visites, entre deux lieux, il faut un petit peu se ressourcer. Le chapitre 5, c'est la vigne et le vin. Et le chapitre 7, c'est un patrimoine gourmand. Alors, Daniel, c'est votre spécialité.
Je ne sais pas si je suis spécialiste dans ces domaines-là, mais enfin, on a oublié combien le vin a quand même enrichi la ville. Après le textile, les négociants nîmois ont investi leurs capitaux dans le vin. Donc, ce n'était pas pour rien. On savait qu'il y avait la possibilité de faire de grands bénéfices. Et lorsqu'on se promène dans la ville, beaucoup de façades témoignent de la richesse apportée par le vin. Et puis, ce que on voulait rappeler aussi, c'est combien le marché du lundi était un élément dynamique pour la cité. Car tous ces viticulteurs, négociants, courtiers, cavistes qui se rencontraient sur le boulevard Victor Hugo essentiellement et dans les cafés que vous connaissez, bien sûr, comme le Café de Paris qui est devenu Napoléon, ou bien le Café de la Bourse, ou bien sur les marches du Café de la Comédie qui a disparu malheureusement, eh bien, il y avait là une animation très importante. Et aucun commerce ne fermait le lundi. Bien au contraire, c'était le jour où on travaillait le plus à Nîmes. Hein.
Voilà. Allez, c'est là aussi on voit l'évolution, les traditions qui évoluent. Et vous parliez des cafés, vous n'avez pas cité Courtois et vous m'avez appris le nom d'une pâtisserie que je vais aller...
Alors là, vous passez à la gourmandise. Nîmes est une ville qui a des spécialités très connues, bien sûr.
Brandade.
La brandade, les croquants Villaret, les olives, la tapenade, l'huile, etc. On n'en finirait pas. Mais il y a une spécialité, je dirais, douce, et qui fait du bien, et qui est à base de chocolat, et que l'on connaît moins bien, et qui s'appelle le Nedusco. Et ce Nedusco, il a une histoire charmante. à la fin du, au début du XXe siècle. C'est tout au début du XXe siècle, un pâtissier qui était installé sur la place du marché, qui faisait bien ses affaires, avait ouvert une seconde boutique. Et cette boutique-là se trouvait en face du Grand Théâtre, Grand Théâtre Opéra. Cet homme était un amateur d'opéra. Et un jour, donc, il va assister, ou un soir, il va assister à une des représentations qui se donnait dans le Grand Théâtre. Il s'agissait donc d'un opéra qui s'appelait L'Africaine et qui a eu beaucoup de succès. Et il se trouve que pendant donc, le spectacle, il a écouté un chœur qui l'a particulièrement impressionné. C'était le chœur des esclaves. Et l'un de ces esclaves, qui s'appelait Nélusco, avait une voix tellement merveilleuse qu'en sortant du théâtre, il a été charmé par ce moment et il a décidé de faire quelque chose pour se souvenir de ce grand moment. Et il a donc créé un chocolat, un petit chocolat qu'il a appelé le Nélusco et qui est un délice vraiment et que l'on vend dans cette boutique depuis la fin du 19e siècle.
Qui est le café Courtois.
Qui est le, en effet la pâtisserie Courtois.
Oui, un café historique. Et je comprends maintenant pourquoi vous avez choisi comme intermède musical L'Africaine. Quand j'ai vu votre choix, je me suis dit, pourquoi un opéra à l'Africaine?
Ah voilà. Ben voilà. On ne voulait pas vous déstabiliser, il y avait une raison.
Non, non, c'était une curiosité, une saine curiosité.
Nostro questo terreno fecondo che l'Europa può tutta arricchire spettacolo divino interrapito io son al nuovo mondo tu m'appartieni Vieni a me, tu m'appartieni a me. Oh, nuovo mondo, tu m'appartieni a me, a me.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons nos trois invités, je vais changer de sens, Daniel Jean, Francine Cabanne, Camille Pinchina pour leur livre « Nîmes, la grande aventure du commerce ». Il est bien évident qu'on ne parlera pas de tout, nous avons parlé des aquarelles, nous avons parlé de l'histoire, de vin, de gourmandise, de Nélusco. Il y a des chapitres, je ne sais pas si je peux les dire tous. Un commerce nourri des richesses et des ressources du territoire. Antiquité et antiquaire, vous en avez bien sûr brièvement parlé, Francine. La grande épopée du textile. Il faut rappeler votre précédent livre avec les gravures anciennes, avec toutes ces industries présentes en centre-ville, en fait. Oui, hein, c'est ça qui est important. Le cuir et la chaussure, là aussi, je ne savais pas trop. Alors, il y a des noms que je ne connais pas, hein, Gaillard, Gaïdan, Meilleur Pic.
Oui, je crois que c'est important peut-être aussi de rappeler quand même que pendant très longtemps, le commerce se confondait avec l'industrie. Mmh. C'est-à-dire qu'on vendait ce qu'on produisait.
Bien sûr,
et sur Nîmes, on produisait donc énormément, bien évidemment, de tissus, de textiles, Puis ça a été les châles, ça a été des tapis, ça a été de la confection. Enfin, ça, l'industrie textile a beaucoup évolué à Nîmes, mais tous ces produits ont alimenté le commerce. Et puis même chose dans le cuir. Hein, Nîmes a une très très vieille tradition de cuir. Alors il y a des choses assez drôles. Vous citiez Napoléon Gaillard. Napoléon Gaillard est un chaussurier extraordinaire, révolutionnaire, communard, engagé dans la Commune de Paris. Il avait construit une énorme barricade à Paris, appelée barricade de Gaillard. Et en même temps inventé des semelles qui étaient en caoutchouc naturel et qui ont eu un succès, il les avait fait breveter. Donc on a comme ça quelques grands noms de la chaussure à Nîmes. Nîmes a été la capitale aussi des fafios, c'est-à-dire les petites chaussures d'enfants qui ne marchent pas encore, hein. C'est des pointures du 18 au 22, la pointure. Et Nîmes avait de très grosses entreprises de fafios et était même numéro un sur ce marché-là au niveau national et presque européen.
Je comprends mieux vos difficultés à faire des choix parce que le chapitre après, c'est les éditeurs, imprimeurs, libraires. Alors là aussi, comment se débrouiller?
Des libraires, il y en a dans toutes les villes, partout. Mais c'est peut-être quand même aussi une spécificité nîmoise parce qu'à Nîmes, nous avons plus de libraires que dans la plupart des villes d'une taille équivalente. Et nous avons surtout plus de lecteurs, c'est-à-dire un goût du livre à Nîmes qui est marqué et qui est, je pense, quand même lié à son histoire protestante. Les protestants avaient une passion pour le livre, savaient tous lire puisqu'on lisait la Bible dans les prières familiales. Et de ce fait, les livres ont été introduits. Il n'y a pas que les Bibles qui ont été introduits, le livre aussi, les livres de réflexion, de littérature, ont été introduits très tôt dans les maisons nîmoises, particulièrement dans la communauté protestante. Et nous avons de très très belles histoires de libraires nîmois. Puis encore aujourd'hui, ils sont passionnés, passionnants, engagés. Voilà.
Alors, vous aviez défini le nombre de pages pour chacun. Comment vous travaillez toutes les trois? Vous, Camille, si on vous disait, il y a peut-être tant de pages, tant de places.
Non, ça se fait à la fin. Ça, c'est un peu le travail de notre éditeur qui est forcé de.
Oui, Yann Cruvelier, il n'est pas là, mais voilà. Il est très important.
Choix, forcément. Il coupe un petit peu les textes, il ne choisit pas tout à fait tous les dessins. Quoique maintenant, je vise un peu mieux. J'ai moins de chute qu'au début. Voilà, je sais à peu près ce qu'il faut faire, le mélange aquarelle-dessin aussi, puisqu'il y a des dessins en crayon. Oui. Mais on n'a pas de contraintes au début.
Il nous a dit d'écrire librement.
Pour la mise en page, en fait.
Voilà. Et pour le rythme du livre aussi, il nous avait bien encouragé à ne pas faire des notices qui étaient
trop longues.
Trop non équivalentes les unes aux autres. Il pouvait y avoir des longues, des très courtes.
Oui, ça pouvait.
Une grande liberté.
Mais c'est parce que c'est vous les auteurs, donc c'est vous qui mettez ce que vous avez envie de mettre. Et puis, ce n'est pas un livre d'histoire. Je ne sais pas comment le définir, votre livre. C'est pas un guide.
On l'a appelé un livre d'émotion. C'est effectivement pas du tout un livre universitaire ni de recherche historique, même si on a essayé d'être plus rigoureuses possibles et que les éléments historiques qui figurent dans le livre ont été vérifiés, bien sûr. Et puis, on a eu beaucoup la chance de rencontrer les commerçants. Donc, c'est eux qui nous ont apporté aussi leurs archives familiales, des vieilles photos parfois, des anecdotes familiales. Et en fonction de ça, les notices ont été plus ou moins longues.
Oui, parce qu'en fait, eux-mêmes n'avaient peut-être pas classé toutes leurs archives et votre livre, c'est en fait un bon stimulant pour eux.
Oui, certains ont découvert l'intérêt. Parce qu'au fond, quand on a des vieux papiers à la maison, on ne se rend pas toujours compte que ça peut intéresser les historiens. Et on a découvert des personnages, je pense à la famille Mouton par exemple, où le grand-père était un personnage très, très connu dans la ville, qui a été un des grands commerçants de la ville, qui a joué un rôle donc essentiel, pas simplement dans la promotion des produits qu'il fabriquait, mais aussi bien, je veux dire, au niveau de la chambre de commerce, il y avait un grand dynamisme. Et puis je crois qu'aussi, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que dans cette ville, et ça, on a quand même de la chance parce que c'est pas vrai, c'est pas toujours le cas. Eh bien, il y avait beaucoup de lieux de rencontre, des lieux où on aimait se retrouver.
C'est peut-être les chapitres, les zones de chalandise qui sont des grandes zones de marché. Puis le dernier chapitre, c'est guinguettes, cafés, hôtels, restaurants.
Et les cafés, par exemple, à Nîmes, ont joué un rôle très important. Il y avait des cafés spécifiques où Ça existe encore un peu, hein, où se retrouvait un certain type, si vous voulez, donc de population. Et
il y avait les contrats, les marchés.
C'est ça. Il y avait des quartiers ouvriers, il y avait des quartiers où on venait, bon, qui étaient plus sportifs. Il y avait des quartiers où on avait une clientèle plus militaire, par exemple, hein,
qui faire la légion, voilà. Je suppose. Hein.
Et tout ceci faisait une vie quand même dynamique. Hein, et
mais je vois des noms comme le Pantel. Bon, c'est vrai que quand moi, arrivé à Nîmes, on me disait ben, le Pantel. Je dis oui, bon, ben.
Mais le Pantel, c'est le commerce le plus connu dans la ville, probablement. Ouais. C'est un. D'ailleurs, la famille Pantel dit toujours que c'est le monument le plus fréquenté de la ville. Ce n'est pas tout à fait faux, parce qu'on y va pour l'emplacement, on y va pour rencontrer ses amis, on y va un peu moins aujourd'hui pour les animations, parce que c'est Rennes Pantel et Roger Pantel avaient eu l'intelligence de créer, si vous voulez, toute une, tout au long de l'année, des animations différentes qui attiraient le public.
Oui, oui. Hein,
on y venait le soir pour prendre le frais, on venait assister à la course des garçons de café, on venait voir les coureurs, les pétanqueurs, donc c'était toute une vie.
Mais ce livre, c'est aussi, on l'a dit dès le début, tout un regard sur le passé. Et moi, j'aimerais que l'on conclue sur l'avenir. Vous qui êtes là depuis longtemps en Nîmes, moi que depuis 15 ans, j'ai vu tout de même déjà beaucoup d'évolutions au niveau urbain. Des grands axes, le Jaurès par exemple, qui est devenu un axe qui était complètement en désordre quand je suis arrivée. Vous, comment vous ressentez cette évolution du commerce? Vous avez envie de faire un livre sur... sur d'autres zones de commerce ou vous restez sur le centre?
Non, enfin, je ne crois pas que ce n'est pas dans les projets immédiats de toute manière, mais comme le disait Daniel, on n'a pas voulu faire un livre sur la politique commerciale à Nîmes. Comme dans toutes les villes, à une époque, on a encouragé la création de grandes zones commerciales en périphérie qui permettaient aussi aux villages de l'agglomération de Nîmes de venir se ravitailler sans rentrer dans le centre-ville. Mais en faisant ça, on a asphyxié le centre-ville. Ouais. Et ça n'est pas spécifique à Nîmes. On le trouve dans énormément de villes françaises. Et aujourd'hui, se pose la question de la redynamisation des centres-villes avec la réintroduction des commerces. Nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est que le commerce, c'est un lieu de rencontre. C'est là que se fait la cité. Le cœur battant d'une cité n'est pas dans les grands centres commerciaux ou les grandes surfaces, mais il est quand même dans cette rencontre des petits magasins, des petites boutiques.
Des hommes et des femmes.
Voilà, où on a un rapport particulier avec son commerçant qu'on connaît, où on va plaisanter, parler d'autres choses, pas seulement de ce qu'on achète, mais de la famille. Et beaucoup de commerçants nous ont dit, mais nos clients, c'était un peu comme la famille. Par exemple, la bijouterie Thomas, la dame me disait, je voyais grandir les enfants, on venait à faire agrandir les joncs au fur et à mesure. Et je suivais l'évolution des enfants et on prenait des nouvelles de la grand-mère, etc. Bon, oui, ça, vous ne le trouvez pas dans des grandes surfaces.
C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de parler des halles. Bon, les halles, c'est... Eh bien, vous reviendrez une
autre
fois.
Il y a un chapitre sur les halles.
Merci à vous, à toutes les trois. Ça fait un très beau livre pour la période de Noël. C'est un très beau livre. Merci à toutes les trois.
Merci.
Vous êtes sur Radio Alliance Plus.